Merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu as certainement quelque chose à nous dire. Alors Seigneur, ouvre nos oreilles, mais ouvre surtout notre cœur. Amen. Alors je ne sais pas si vous étiez tous là, certainement pas jeudi soir. On a vu la rencontre de Dieu avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Et on a surtout vu les impératifs de pureté que Dieu demandait au peuple pour qu'il puisse s'approcher même de loin de la montagne. Et puis, hier, les jeunes étaient à la maison et Benjamin nous a rappelé aussi les impératifs de sainteté liés à notre nouvelle identité en Christ. Et ce matin, on va rester un peu dans ce même thème. C'est devenir semblable à Christ. C'est ça le but final. Alors on va lire deux versets dans Romains 8, Romains 8, 28 et 29. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alors tout de suite, je me suis dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est quoi ce bien? C'est d'être semblable à l'image de son Fils. Or, ce matin, Jean-Lionel nous a dit, on aimerait peut-être ne pas passer par certaines choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si je vous demandais de faire une petite liste de 10 choses positives qui vous sont arrivées dans la vie, qu'est-ce que vous diriez? Pour certains d'entre nous qui sommes mariés, nous répondrions le mariage, peut-être. Puis ensuite, les enfants. La maison ou le travail que nous avons eu. Pour certains, ce serait la réussite à un examen, ou une amitié, ou une belle rencontre, enfin des tas de choses. Et je crois qu'il y a peu de chances que quelqu'un me dise spontanément que ce qu'il y a eu de mieux dans la vie, c'était sa souffrance, la dépression, ou tel malheur qui se sont produits pour lui. Et pourtant, ce qu'on a lu ce matin, c'est cette promesse formidable de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une promesse sans limite, comme l'amour de Dieu. Et cette promesse affirme que toute chose, sans exception, les meilleurs comme les pires, coopèrent ensemble à notre bien. Cette promesse affirme que dans la pensée de Dieu, rien n'est vraiment négatif. Tout sert le but qu'il vise pour nous, nous configurer à l'image de son Fils. Alors si Dieu estime que tout ce qui se produit dans notre vie est positif, ce n'est pas d'abord parce que ça nous est agréable. Mais c'est parce que ça va servir, ça va être utile au travail qu'il poursuit en nous et qui a un seul but, nous amener dans notre être, dans notre caractère, dans nos priorités, dans nos affections, dans notre conduite, à ressembler à Jésus-Christ. Et si Paul insiste pour nous dire que toute chose coopère ensemble à notre bien, à ceux qui sont prédestinés à être semblables à son Fils, c'est qu'il sous-entend peut-être que cela ne sera pas automatique dans notre façon de voir les choses. Quelquefois, on chante un cantique qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. » Alors ça évoque une noble aspiration, une haute ambition. Mais parce que je me connais un peu, je sais qu'il y a une partie de moi qui aspire à cela, et puis il y en a une autre qui s'y oppose, qui résiste de toutes ses forces à ce projet. Parce qu'être configuré pour ressembler à Jésus, c'est forcément ne plus être le même qu'avant. Pardon. C'est accepter de se laisser changer par Dieu pour que tout ce qui ne correspond pas à Jésus soit modifié et qu'ainsi nos affections, nos priorités et ce qui ressort de notre caractère soient alignés sur lui. Alors de quelle manière Dieu fait-il cela? Comment s'y prend-il pour modifier notre être, notre vie, pour la faire ressembler à l'image de son Fils? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Moi, j'ai trouvé trois voies divines pour ressembler à Jésus. Alors, la première, c'est le dépouillement de soi. On va lire Philippiens 2 à partir du verset 5. Philippiens 2 à partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à conserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alors si on est appelé à être formaté à l'image de Jésus, Jésus le Fils de Dieu, il faut noter que ce n'est pas à nous en premier que Dieu demande cette opération. Si Dieu travaille à ce que nous ressemblions à l'image de son Fils, c'est d'abord parce que lui, le premier, en devenant homme, s'est configuré à notre image, à notre ressemblance. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était vraiment homme. Alors que nous sommes appelés à ce qu'il y ait des modifications importantes dans notre vie pour ressembler à Jésus, il faut rappeler peut-être que celles-ci sont peu de choses comparées à tout ce que devait changer le Fils de Dieu pour nous ressembler. De sa condition de Dieu, infini, tout-puissant, éternel, qui vivait en dehors du temps, Jésus a dû accepter d'entrer dans la condition humaine. Et cette condition est marquée par la faiblesse, le besoin, la dépendance complète de Dieu, puis la confrontation physique avec le mal, la corruption, la souffrance. Alors Paul nous indique la voie qu'a dû suivre le Christ, une voie qui est aussi celle que Dieu nous appelle à suivre pour lui ressembler, la voie du dépouillement. Et c'est cette voie dont Paul témoigne au chapitre suivant, quand il parle des changements qu'a opéré dans sa vie le fait de devenir disciple de Christ. Paul rappelle ce qu'il était avant de connaître Christ, et bien sûr c'est dans Philippiens, c'est le chapitre après, Philippiens 3, au verset 4. « Pourtant je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Qui est-ce qui peut dire ça aujourd'hui ? Paul, probablement contrairement à beaucoup d'entre nous, avait plein de raisons d'être fier de sa vie passée. Aux yeux de ses contemporains, il ne passait pas pour un mauvais garçon ou un raté. Il n'était pas considéré comme quelqu'un à éviter dans la société juive de son temps, mais plutôt comme un modèle à éviter. Et encore dans le chapitre après, Philippiens 4, au verset 7, « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. » Alors que Paul avait mille raisons d'être fier de lui, sa rencontre avec le Christ a tout changé. Désormais, Paul ne considère plus ses qualités naturelles comme un avantage ou quelque chose de valeur. Au contraire, tout ceci fait partie de sa nature humaine. Il doit maintenant le rejeter pour apprendre à vivre, non à partir de ce qu'il possède, mais à partir de ce que Christ va lui donner dans la communion avec lui. Alors on revient au chapitre avant, Philippiens 3. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec une justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection des morts. » Alors comme il en fut pour Jésus pour nous ressembler, le chemin qui nous mène, nous, à sa ressemblance à lui, pour Paul comme pour nous, passe par le dépouillement de ce que nous étions avant de le connaître, le dépouillement de ce que la Bible appelait le vieil homme, parce que notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Nous ne sommes plus obligés de laisser vivre en nous l'ancienne personne que nous étions. Éphésiens 4, verset 22, « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et dont les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie sainte, juste, que produit la vérité. » Alors, comment ressembler à Jésus ? Alors, je pense qu'il faut d'abord concrètement identifier ce qui, dans nos pensées, nos désirs, viennent de lui et ce qui vient de notre nature. Pour ce qui est de ce qui vient de notre nature, c'est assez facile à reconnaître. C'est Paul qui le dit dans Galates. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors on n'en est peut-être pas tous à ce point-là. Et puis il faut ensuite apprendre à penser comme Dieu pense. À apprendre à regarder ce qui se présente dans notre vie à la lumière de la vérité de Dieu. C'est par le changement d'orientation de notre pensée que se produisent les changements de comportement dans notre vie. Plus on apprend à penser, à voir les choses comme Dieu les voit, et plus nombreuses seront les transformations qui s'opéreront en nous et nous amèneront à ressembler à Jésus. Et c'est le premier but du travail de Dieu en nous. Alors la deuxième voie de Dieu, c'est le travail de la souffrance. On n'aime pas trop la souffrance. Mais pourtant, c'est cette voie qu'a dû suivre Jésus pour être amené à nous ressembler. Cette voie, dit la Bible, est celle de l'humiliation et de la souffrance. Et c'est aux Philippiens que Paul dit « Non seulement le Christ se rendit semblable aux hommes en tout point, mais il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Et Paul le dit dans ce que nous avons lu, « Connaître Christ, c'est pas seulement avoir part à la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire recevoir une vie nouvelle, sa vie, c'est aussi avoir part à ses souffrances. » Aux Philippiens, il dit, « C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. » Comme Jésus a dû passer par la souffrance pour s'identifier complètement aux hommes, Paul dit qu'une certaine dose de souffrance, d'affliction seront nécessaires dans nos vies pour nous amener à la ressemblance de Christ. Le fait que la souffrance fasse partie de la formation par laquelle Dieu veut nous faire passer est la raison de l'affirmation que nous avons lue au début. Toutes choses, y compris les moins agréables, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont prédestinés à ressembler à Jésus. Alors pourquoi la souffrance est-elle nécessaire? Quel travail produit-elle en nos âmes qui n'existerait pas sans elle? La Bible répond de plusieurs manières. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. La souffrance, il nous est dit là que c'est l'école d'apprentissage dans laquelle Jésus a été placé pour apprendre l'obéissance. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus était un rebelle? Je pense que ça veut plutôt dire que les moments de souffrance par lesquels Jésus est passé ont été le moyen par lequel son obéissance a été démontrée, son obéissance sans faille. Et on peut penser bien sûr à Gethsémané, où Jésus fut saisi d'angoisse et de tristesse, et pourtant il a été prêt à obéir, à se soumettre au plan de Dieu, contre toutes ses pensées et ses sentiments qui se trouvaient en lui. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui rappelle « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Est-ce pour cela qu'il n'est pas mort ? Notons quand même que la plus grande souffrance dont nous parle la Bible à propos de Jésus, ce n'était pas physique. Bien sûr, les clous, les fouets, la couronne d'épines, c'était pas une partie de plaisir. Mais je pense que sa souffrance la plus aiguë, ça a été celle d'être séparé de son père. Celle qu'il a dû ressentir dans ses moments de ténèbres et d'angoisse pour son âme, au moment d'être séparé de Dieu. Et la souffrance mentale, morale, qui pour nous peut se traduire par le découragement, la tristesse, la dépression, fait partie aussi de la formation de Dieu. C'est une école où on apprend l'obéissance sans que rien en nous, ni nos pensées, ni nos sentiments, ne le désirent. C'est une dure école, certainement la plus dure de toutes. Mais il semble que aucun des hommes de Dieu que la Bible nous rapporte n'en ait été épargné. Ni Élie, ni Moïse, ni Job, ni David, ni Paul. On lit au psaume 119, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » La souffrance, c'est le moyen par lequel Dieu nous forme à l'endurance et à la patience. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels rien ne manque. C'est Jacques qui dit ça. Voulons-nous être parfaits? Voulez-vous être parfait? Alors nous, peut-être pas, mais Dieu le veut. Si on est satisfait de l'état où on est parvenu, croyons que Dieu, lui, ne l'est pas. Tout sarment qui porte du fruit, le vigneron le laisse-t-il tranquille? Non. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors jusqu'à la fin de notre vie, et nous devons le savoir, le travail du Père, afin de nous amener à la ressemblance de son Fils, se poursuivra. Parce que le Père a quelque chose en vue d'excellent pour nous. Son but n'est pas que nous passions les quelques années que nous avons à vivre sur la terre au mieux. Ce qu'il veut, c'est que dans l'éternité, nous possédions la plus grande gloire possible. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Paul dit que si Jésus sera le plus élevé au ciel, c'est parce qu'il... Ici-bas, c'est celui qui s'est le plus abaissé. Il est celui qui a fait preuve dans son abaissement de la plus grande obéissance. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alors, est-ce que nous nous étonnons de la souffrance par laquelle nous passons? Sachons qu'elle vient de Dieu, de sa volonté de nous rendre conformes à l'image de son Fils, de nous faire participer à sa gloire. Alors on a vu le dépouillement de soi, la souffrance. La troisième voie de Dieu, c'est le travail de l'esprit en nous. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors, le principal privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. C'est là, en effet, selon les propres mots de Jésus, le rôle principal de l'Esprit en nous. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Or, plus le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus, plus il travaille en nous pour nous modeler à son image, à sa ressemblance. Il y a un grand principe, c'est qu'on finit toujours par ressembler à ce que nous adorons. C'est vrai dans la vie, celui qui aime l'argent devient un avare ou un profiteur, celui qui aime l'impureté devient un débauché, celui qui aime Dieu finit par ressembler à Jésus-Christ. Alors, pour résumer, le but de Dieu pour nous, c'est de nous configurer à l'image de son Fils. Et pour ce faire, tout ce qui arrive dans notre vie concourt à ce but qui est notre bien suprême. Le façonnage de notre vie à la ressemblance par trois voies essentielles, le dépouillement de notre ancienne nature, le travail de la souffrance dans nos âmes, et puis l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et ce travail sera pleinement fini lorsque nous serons face à lui. C'est Jean qui nous le dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors que cette espérance puisse habiter nos cœurs. C'est 1 Jean, tu le trouveras, 1 Jean quelque chose. Bonne fête au papa aussi.